France Inter.
Moi, je suis là pour faire rire, en fait. Donc, normalement, je suis pas là pour dénoncer. Ce que je voudrais, c'est que la personne qui sort de scène après avoir vu mon spectacle ait envie de se renseigner. Mon rôle, c'est d'ouvrir quelque chose. Et après, que ces gens-là aillent voir leurs profs et leur posent des questions, parce que les profs sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de ces sujets-là. Et nous, les humoristes, on est compétents pour écrire des blagues, pour tourner quelque chose en dérision.
Ma toute première scène, c'était pour la fête de la musique, comme plein de jeunes Français. J'avais 14 ans. Dans un bar, il y a eu quelque chose de fondamental pour moi, qui était de prendre conscience d'une place que j'avais, en fait. J'étais à l'époque avec un micro dans la main, mais il y avait quand même des gens qui écoutaient ma voix et je me suis senti à ma place à ce moment-là.
Comme tous les humoristes, il tourne en dérision le monde dans lequel il vit, mais il a quelque chose en plus, une audace pas si commune que ça, que le sujet touche à la société, à la religion, au wokisme, qu'il soit politique, culturel. Haroun ne s'interdit aucune cible. Il vise tout et tout le monde, avec une malice qui empêche le spectateur visé de s'énerver, parce que c'est le rire que, fondamentalement, il provoque. Haroun, c'est un bobo du 11e arrondissement de Paris qui vous accueille. Bonjour.
Bonjour.
Je dis ça parce que le bobo, à un moment, est une de vos marottes. Et d'ailleurs,
oui.
Il est déjà apparu dans d'autres one-man shows de Haroun avec son vélo cargo.
Ouais.
Vous remontez sur scène après une absence de 2 ans. Bonjour quand même. 6e spectacle avec micro, avec lunettes, avec un physique de fils de bonne famille qui tient lieu, à mon avis, d'uniforme. D'ailleurs, vous portez un petit pull bleu marine. Ça aide à tout dire, ce look assez sage. J'ai l'impression que c'est votre page blanche.
Oui, ça aide à surprendre aussi. Et c'est un des ressorts du rire que d'avoir une surprise à la fin d'une phrase, de ne pas être là où on nous attend.
Votre invité est chanteur d'opéra. Bonjour Timothée Varron.
Bonjour.
Jusqu'en avril, vous êtes en tournée, et même en fin de tournée, avec Don Giovanni de Mozart, dirigé par Julien Chauvin, mise en scène de Jean-Yves Ruff. Et j'ai hâte d'entendre ce qui a motivé Haroun à inviter le baryton que vous êtes à sa table. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
On peut le dire de plusieurs manières. Bonjour quand même. Bonjour quand même.
Ouais.
Comment vous le dites, vous ?
Bon, bah, bonjour quand même.
Ouais, on voit que vous êtes comédien aussi. Hein. Vous êtes sur scène à Haroun au 13e mars et Place d'Italie. Ça, c'est jusqu'à samedi prochain. Et puis, une grande tournée va commencer. J'ai remarqué qu'elle était quasi pleine, cette tournée, sauf à La Roche-sur-Yon. Vous savez pourquoi ?
Aucune idée. Alors, je ne savais même pas que c'était pas complet à La Roche-sur-Yon.
À mon avis, à 18h après France Inter, vous serez complet aussi à La Roche-sur-Yon.
Oui, oui, j'ai bon espoir. La Roche-sur-Yon, j'ai plein de choses à dire sur la Vendée.
Oui, sans ça, je vous fais confiance. Le constat, c'est que vous avez un public, depuis pas mal d'années, fidèle, assez jeune, je trouve, en tout cas le soir où j'étais à Paris en train de vous regarder, mais peut-être aussi que les gens ont besoin de rire, que les gens ont besoin de se divertir, de se désangoisser, et que donc ils courent vous voir.
Oui, je pense qu'ils courent me voir aussi, peut-être parce qu'il y a une espèce d'effet, on va parler aussi d'autre chose. Je vais essayer de trouver des angles qui vont être inédits, donc peut-être qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je vais dire sur
qu'est-ce qu'il va encore trouver.
Voilà, c'est ça. J'essaie de chercher à chaque fois des angles dans les spectacles, en tout cas, pour aborder des sujets de société qui vont les intéresser, j'espère. Et donc c'est peut-être cette curiosité-là qui est créée et
qui leur donne
envie de venir voir.
Sans tout dire du spectacle, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de neuf, de nouveau, qui est apparu sous votre plume, et donc sur scène ?
Oui, par exemple, je parle de nos angoisses face à l'astrophysique. Qu'est-ce qu'il y a de complotiste en nous ? Je veux dire, moi, quand on nous parle de ce qui est prouvé scientifiquement, je dis, c'est pas parce que c'est scientifique que je dois l'accepter. Mais en gros, il y a plein de choses, heureusement, qu'elles sont prouvées scientifiquement, sinon ça paraîtrait des histoires impossibles, en fait. Et je parle de l'astrophysique, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout parlé jusqu'ici, mais ces angoisses-là, elles peuvent virer au complotisme, et j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a de complotiste en moi.
Ça, c'est l'humour de Haroun. Vous allez chercher un peu votre diable.
Oui, voilà, c'est ça. C'est à quel point je suis complotiste, à quel point je suis raciste, à quel point je suis antisémite, à quel point j'ai des mauvaises pensées que j'essaie de convoquer pour écrire et de me débarrasser, parce qu'il faut que ça quitte mon cerveau, sinon ça m'empoisonne.
Bah oui, encore aujourd'hui, vous parlez facilement et aisément des Juifs, des Arabes, alors que personne n'ose aujourd'hui, ou peu de gens osent sur ce thème.
Oui, parce que j'en parle en essayant de trouver ce qu'il y a de commun à tout le monde et qu'est-ce qui convoque nos défauts dans ce qu'on déteste chez l'autre aussi. Mais il y a aussi une fascination dans la haine. J'avais lu ce truc assez intéressant. En général, quand on n'aime pas l'autre, c'est qu'on aimerait être l'autre aussi.
Ah oui,
on
attraction, jalouse, répulsion.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a une fascination. J'aime bien jouer avec ces clichés-là parce que dans la blague, en fait, parfois on peut trouver quelque chose qu'on veut chez l'autre. Et donc, par la blague, ça révèle un peu notre jalousie.
Mais c'est des heures de travail, en fait, pour trouver la note juste.
Alors ça dépend. Il y a des choses qu'on trouve immédiatement. Et il y a des sketchs qu'on pressent, on n'arrive pas à trouver exactement l'angle et on met des mois à trouver l'angle. Et c'est le cas, par exemple, du sketch sur le wokisme. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le ton qui me permettait de traiter le sujet comme quelque chose de plus compliqué qu'on ne le pense.
Oui, parce qu'il ne faut pas être actionnaire.
Exactement, et il y a beaucoup de sujets où on a tendance à nous dire qu'il faut qu'on ait un parti, qu'on choisisse un côté. Là où, en fait, il y a des idées très intéressantes de chaque côté. Et en fait, si on s'ouvre au sujet, on s'aperçoit qu'il peut nous apporter bien plus qu'on ne le croit. Et je pense que parfois, en manque d'ouverture, en manque de pont, je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec tout le monde, mais je dis juste que c'est important d'écouter sincèrement celui ou celle avec lesquels on n'est pas d'accord, parce que ça nous enrichit et ça nous permet aussi peut-être de confronter les idées, donc d'en faire émerger de nouvelles. C'est plus ça, c'est la création d'idées qui m'intéresse, plus que réagir négativement.
On vous entendait dans le générique, Haroun, dire « j'aimerais bien qu'ensuite les enfants, par exemple, ou les jeunes aillent voir leur prof
oui. ».
Comme si vous citiez que le débat commence avec vous. Ou en tout cas l'interrogation, tiens, il dit ça, j'avais pas pensé à ça, et que ça se poursuive.
Voilà, ouais, il y a une ouverture, et je fais exprès d'aborder des sujets parfois un peu, entre guillemets, un télo, enfin, qu'on va dire dans le mauvais sens du terme, mais j'aime bien aborder aussi un peu la mythologie grecque, je parle du memento mori, avec des termes comme ça qui donnent envie potentiellement d'aller plus loin ensuite, et c'est ce qui m'intéresse quand je vois des œuvres, en fait, quand j'aime un ou une artiste, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'aller voir pourquoi cette personne elle a écrit cette chanson-là à ce moment-là, j'ai envie d'aller voir ce livre-là et la personne va avoir une référence, on a envie d'aller lire l'autre livre. Et c'est de grands drames d'ailleurs, plus on se cultive, plus on a envie de se cultiver. En fait, la bonne démarche, c'est plus on se cultive, plus on a l'impression d'être inculte.
Oui, c'est jamais fini,
ouais.
Un puits sans fond. Vous avez en face de vous un garçon qui chante, plutôt pas mal, ça se passe bien pour lui, c'est Timothée Varron. Est-ce que vous chantez, Timothée, vous qui êtes chanteur d'opéra, baryton, est-ce que vous chantez pour faire du bien aux gens qui viennent vous écouter?
Ça peut. Moi, je chante pour raconter des histoires, je crois.
Il était une fois.
Il était une fois. Je suis un passionné de littérature aussi. Et je crois que c'est ce qui m'anime profondément, c'est de raconter des histoires. Et je trouve que quand on les fait en chantant, il y a une dimension émotionnelle peut-être en plus pour moi. Et peut-être que c'est le médium qui me correspond le mieux.
Vous voulez écouter la voix chantée de Timothée Varron?
Oui, avec grand plaisir.
Nous aussi. Ouais. Falstaff.
Sponsali della regina delle fate. C'è stata la coppia che gli sposi attenti, attenti.
Il y a un silence très respectueux dans le studio, parce qu'on écoute avec beaucoup d'attention. Haroun, qu'est-ce que vous ressentez là?
J'ai vu pour la première fois de l'opéra quand Timothée m'a invité à Massy pour voir Don Giovanni, et je réécoute ça avec un regard, une oreille bien différente de ce que j'écoutais avant. Et maintenant, j'écoute ses intentions de voix. Là, je comprends pas le texte, mais j'essaie de lire les émotions qu'il y a dans ce chant. Et le fait d'avoir compris que l'opéra, c'est ce qu'il dit, c'est une histoire en fait. Là où moi j'écoutais ça avant comme de la musique qu'on doit écouter, on écoute 2 minutes 30 d'opéra, et en fait c'est pas du tout ça, c'est une histoire. Et maintenant ça m'attire et ça me fait aller vers l'œuvre, parce que j'ai envie maintenant de comprendre les paroles, j'ai envie de savoir ce qui est dit, j'ai envie de savoir exactement tout le texte en fait. Donc ça me...
Vous n'étiez pas au départ un spectateur qui va à l'opéra?
Mais pas du tout, pas du tout. Et j'avais même un a priori de « c'est pas pour moi, je comprends pas quoi ». Et depuis que j'ai vu avec les surtitrages, en fait, je remarque même dans la salle, il y a de la musique, les gens chantent, mais le public est là. Oh non, ils sont pas d'accord avec Don Giovanni. On peut limite entendre le bâtard. Hein, tu vois. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus populaire que je ne le pensais dans l'opéra. C'est un art qui s'est gentrifié, je pense, mais qui devrait être beaucoup plus populaire qu'on ne le pense, parce que il y a vraiment des réactions viscérales à ce qui se passe sur scène et à l'histoire qui est racontée.
Ça fait du bien d'entendre ça, Timothée.
Ouais, je suis très content. Et je pense que je ne serais pas le seul. Mais oui, c'est exactement comme ça que l'opéra m'a attrapé aussi.
Pas si jeune que ça, d'ailleurs.
Non, pas du tout. J'ai découvert ça quand j'étudiais la littérature, en fait, en première année de fac. Moi, j'avais commencé par le rap et le reggae. J'ai fait de la chanson française. J'ai toujours aimé chanter. Et donc, quand j'ai découvert l'opéra, j'ai tout de suite, je suis allé toquer à la porte du conservatoire de ma ville. Et,
vous avez bien fait,
et voilà.
Ça s'est bien passé
et
ensuite.
Et ça a commencé comme ça. Et quand j'ai rencontré Haroun, en fait, d'ailleurs, j'étais...
Alors, c'était où cette rencontre?
Oui, ouais, on s'est rencontrés dans le train. On était assis l'un à côté de l'autre. Ça commence comme une histoire d'amour.
Il était en train de travailler ses partitions.
Ouais, ouais, ouais. J'étais en train de travailler le voyage d'hiver. En fait, je l'ai reconnu parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait déjà. Mais en fait, j'étais tellement en panique de finir d'apprendre le voyage d'hiver de Schubert, où je le faisais pour la première fois, je crois, 5 jours après. Le voyage d'hiver, c'est un cycle d'1h20 de poèmes en allemand.
Donc vous chantiez dans le
train. Et donc je chantais ça et je me suis dit, bon, là c'est cool, il y a Haroun à côté de moi, il faut vraiment que je finisse d'apprendre Einsamkeit, je crois. Je me suis dit, je lui parlerai quand j'aurai fini. Quoi.
Et ça a été le cas, Haroun? Il s'est mis à vous parler.
Est-ce qu'il a fini d'apprendre ou pas?
Ça, l'histoire ne le dit pas.
Je l'ai
mais...
fait réciter. Non, mais...
Comment vous êtes.
Et en fait, il m'a parlé. En fait, moi, je voyais quelqu'un qui travaillait des partitions. Et franchement, moi, j'ai toujours été hyper impressionné par les musiciens et les musiciennes.
Vous lisez pas la musique?
Si, je lis la musique très mal parce que moi, j'ai arrêté il y a très longtemps la musique. Genre, j'ai oublié la clé de fa, quoi. Mais la clé du tout, alors là, c'est.
Alors, ce dialogue entre vous?
Ah non, mais moi, je n'osais pas parler, moi. Alors, j'avais plein de questions à poser. J'ose pas, il était en train de travailler, je ne savais pas le déranger, mais moi, il y avait une espèce de sacralisation et qui est toujours d'actualité. Quand même. Et après, quand on a discuté, je m'aperçois que j'ai en face de moi quelqu'un qui travaille au conservatoire, à l'Opéra de Paris, qui travaille avec des gens qui perfectionnent leur art jusqu'aux les moindres détails, alors que moi, je suis un stand-upper, je prends un micro, on écrit une blague, on la teste, c'est vraiment un truc. Je suis très impressionné, en même temps, je m'aperçois que c'est très accessible et qu'on a des références communes et qu'on discute d'art, en fait. On se pose pas trop la question de qui appartient à quoi, dans quel milieu on est, on parle juste de ce qui nous fait vibrer, et je trouve que c'est ça qui est beau dans tout ce qu'on vit dans la création artistique, c'est qu'il y a des ponts à faire entre les arts, même s'ils sont pas évidents, le stand-up et l'opéra, vraiment, c'est deux choses qui a priori s'opposent, quoi. Mais en même temps, on sait ce que c'est qu'être face à un public, que de préparer un spectacle, que de devoir apprendre un texte.
On va écouter la française Ethel, avec sa voix cristalline, elle chante avec le producteur français, lui aussi, Banshee the Great, Sorted.
Sur France Inter.
Vous êtes un moraliste? Vous êtes un bouffon du roi? Haroun, vous êtes quoi?
J'aimerais dire, ça appartient au public de penser ce que je suis, parce que j'ai l'impression que, quelle que soit l'intention qu'on veut donner, le public va comprendre différemment. Mais j'espère rester un bouffon du roi aussi longtemps que possible, et ne pas avoir à dire aux gens qu'est-ce qui est bon de penser ou pas, et plutôt de tourner en dérision les pensées, les idées, pour que ça en crée de nouvelles. J'espère réussir à faire ça, et garder mon statut de bouffon du roi, ce qui me permettrait de dire ce que je veux à n'importe quel moment, parce que je ne suis qu'un clown qui se trompe, faussement parfois, mais par l'erreur, par la digression ou l'absurde des réflexions que j'ai sur scène, je reste un bouffon, j'espère.
En bleu marine.
Ouais, il faut.
En 2016, il y avait déjà Haroun, il était au Jamel Comedy Club.
Alors moi, j'ai pas une tête d'humoriste. C'est pas une question. Ouais, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, c'est marrant, t'as pas une tête à faire des blagues. Moi, j'ai dit, tu vois, toi, c'est marrant, t'as pas une tête de cocu. Mais c'est une blague, je lui dis, je sais pas, à ton avis. On rigole bien. Je vais parler un peu du racisme, il y a des gens qui ont voté FN dans la salle. C'est marrant, on les croise jamais. Hein. 6 millions d'électeurs FN, j'en vois jamais, moi. À chaque fois, je demande à un mec, t'as voté FN, il fait, bah, pff, pas trop. En ce moment, les gens se lâchent avec le racisme. Il y a Robert Ménard à Béziers, lui, il a dit, à Béziers, il a 65% d'enfants musulmans. Et les gens étaient choqués, ils ont dit « Quoi? Vous avez fait des quotas, tout ça ?» Moi, c'est pas ça qui me choque. S'il y a 65% d'enfants musulmans à Béziers, c'est-à-dire qu'il y a 65% de musulmans à Béziers, qui a voté pour Robert Ménard? On est d'accord qu'il y a des traîtres. Hein, les musulmans, vous êtes en train de découvrir la collaboration. On rigole bien. Hein.
On peut tout dire quand on est sur une scène, Haroun.
Oh, oui, ça vieillit, hein, là-bas.
Alors, qu'est-ce qui a vieilli?
Le FN, ça s'appelle plus FN, ça s'appelle RN maintenant.
Oui, et mais surtout, moi, je retrouve l'humour d'Haroun.
Oui, mais on les croise jamais. Si, maintenant, on les croise beaucoup plus.
Oui, et c'est la réalité qui a vieilli, c'est pas votre humour.
Non, mais si, bon, c'est un petit peu vieilli aussi. Mais bon, enfin, moi, je suis critique par rapport à ce que je fais, mais même ma posture a changé aussi. Mais,
elle est moins ironique, peut-être.
Elle est plus organique aussi, il y a quelque chose de plus organique maintenant. J'essaie de détendre encore le public et me détendre pour aborder ce que je veux, un peu quand je veux. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la discussion. Là, c'est pas une discussion dans ce que vous avez entendu, mais
vous
maintenant
assénez
sur scène,
un peu.
Je suis beaucoup plus dans un spectacle qui pourrait s'apparenter à des spectacles de salon. Quoi. Un spectacle de chambre pour faire
comme pareil, la musique de chambre. Mais, qu'il arrive de faire... Mais, quand on est Timothée,
j'ai oublié la question, il y avait une question.
Oui, elle était très intelligente.
Ouais.
Non, je vous demandais, moi je trouvais qu'il y avait déjà les racines du Haroun qu'on a.
Ah oui, est-ce qu'on peut tout dire sur scène?
Et est-ce qu'on peut tout dire sur scène?
Est-ce que c'est pas le seul endroit où on peut tout dire? Enfin, si on peut pas tout dire sur scène, arrêtez d'aller voir des spectacles, quoi, parce que sinon, ça sert plus à rien.
Mais, vous vous sentez totalement libre?
Ah oui, ouais, je me sens vraiment totalement libre. Ouais, il y a aucun problème avec ça. Je me demande juste à chaque sujet que j'aborde, est-ce que je vais réussir à faire en sorte d'être compris pour voir que l'intention est pas mauvaise. Mais à partir du moment où notre intention est saine, je pense qu'on peut tout dire. Le problème, c'est quand le public est très fin et ressent très très bien les choses sans pouvoir les verbaliser. J'aime bien dire que le public est très intelligent, mais il sait pas pourquoi il l'est. Mais quand l'intention est mauvaise, là, ça peut accrocher des choses. Mais quelle que soit la blague, en fait, quel que soit le sujet, il n'y a pas de sujet interdit ou de sujet qui serait autorisé, et heureusement, parce que sinon, il faut arrêter de faire ce métier. En revanche, on peut avoir des intentions qui sont bizarres derrière, et c'est ça que je travaille, moi. C'est là où je mets beaucoup de temps pour essayer de montrer que mon intention, elle est celle d'ouvrir une discussion plus que de montrer du doigt qui que ce soit.
Timothée Varron, qu'est-ce qui vous fait rire chez Haroun?
Qu'est-ce qui me fait rire chez Haroun? Je crois que c'est... j'en sais rien. Ça me fait pas tant que ça rire. Non, mais c'est son esprit. C'est facile de dire ça, mais je trouve que c'est quelqu'un qui... On sent qu'il passe 8 heures à travailler une phrase, parfois, pour discuter avec lui de l'élaboration de certaines vannes et de certains sketchs. C'est le cas. Et j'aime bien le fait qu'il prenne au sérieux tous les sujets, en fait, qu'il accorde ce temps-là pour pouvoir en parler, justement, parce qu'il s'autorise tous les sujets, mais ça demande beaucoup de travail, parce qu'on ne peut pas prendre des raccourcis quand on fait des blagues sur les communautés, ou en tout cas, on peut le faire, mais ce n'est pas le même public qui vient, quoi.
Est-ce que vous faites relire votre stand-up par un avocat?
Oh non.
Avant d'aller sur scène?
Oh non. je travaille avec mon metteur en scène pour voir s'il y a des zones qui sont pas compréhensibles. En fait, ce qui me fait plus peur, c'est qu'on n'ait pas compris là où je veux en venir. Et j'espère avoir travaillé assez pour prendre assez de distance, pour montrer que j'ai de la distance par rapport au sujet, pour qu'on ne s'empare pas du truc avec trop d'émotions et que ça bloque en fait la vie qu'on se fait sur un sujet. Par exemple, si on parle, je sais pas, le sujet du wokisme dont je parle pendant un quart d'heure sur scène, ça me demande d'aller lire des choses là-dessus, de prendre un bouquin pour comprendre vraiment le sujet, pour comprendre où est-ce qu'il est limité, où est-ce qu'il y a des écueils à éviter, où est-ce qu'il est critiquable, voilà. Donc,
d'accord, il faut être compris de tous.
Oui, c'est très important parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tous les artistes que j'aime, en fait. Et c'est important, et il y a aussi des philosophes que je vis, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais c'est important pour moi qu'ils me transmettent leurs idées, parce que dans toutes ces idées, avec, je veux dire, je ne vais pas être d'accord pour 80%, mais il y a peut-être une idée là-dedans qui m'a enrichi, quoi. C'est ça qui m'intéresse.
Vous avez... Le wokisme, pardon, je lui pose une question.
Timothée Baron, allez-y.
Le wokisme, où est-ce qu'il est intéressant ?
Il est intéressant parce qu'il nous remet en question, quoi. Je le dis dans le spectacle, il a remis en question nos seuils de tolérance, en fait. En gros, ça a cassé plein de murs, en fait, qu'il y avait entre nous, en disant « pourquoi pas, en fait ?» Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et ça demande parfois un peu de violence de casser des murs. Et c'est ça qui a été reproché, je mets des guillemets avec les woke, mais ça a été reproché aux woke, alors qu'ils ont une intention quand même de faire évoluer la vie qu'on se fait d'une personne, a priori, quoi. Mmh.
On pourrait vous écouter parler des bobos, c'est pas dans ce spectacle-là, c'était il y a quelques années, ouais. Mais ça fait aussi entendre le Haroun d'aujourd'hui.
On a envahi de gens qui ont compris toute la vie. Comme ces Parisiens qui te disent « oui, pour le prix d'un appart à Paris, on a décidé de se prendre un petit pavillon en banlieue populaire dans le 93. On renoue avec la nature, on fait du compost pour les tomates cerises. Ça se passe très bien, figure-toi. Ouais, ça se passe très bien. Mais t'as mis tes enfants en école privée, hein ? Hein ? Hein ? Socialiste, mais réaliste. » Et ouais. Ouais. Parce que les Noirs et les Arabes, tu les aimes bien le dimanche matin au marché quand ils t'offrent la botte de persil. Hein? Merci Mokhtar, t'es mon rouilla. Mais quand t'as vu la cour de récréation du collège public dans 93, tu t'es dit ouh! Mais c'est pas possible que Saturnin aille là-dedans. Jacques le pauvre, il est en échec scolaire parce qu'il est surdoué.
Ça, je me dis, c'est pas si difficile que ça à écrire, Haroun, parce que c'est vrai.
Oui, oui, mais en fait,
c'est
ça,
très
m'a inspiré, ouais, ça m'a été inspiré par,
des copains.
Par une amie ouais, qui se posait toutes ces questions existentielles de où est-ce que je mets mon enfant à l'école, parce que maintenant que j'habite à Montreuil, etc. C'était toute une discussion et ça ouvre plein de questions, qui sont des questions de sociologie, quoi, parce que c'est la lutte des classes qu'il y a là-dedans, c'est la gentrification, il y a plein de choses là-dedans.
Qu'est-ce qui vous excite le plus ? Est-ce que c'est... les sujets politiques ou les sujets sociétaux, Haroun ?
C'est les sujets sociétaux. Après, la politique s'immisce partout, parce qu'il y a toujours plein de références. Les sujets sociétaux sont pris aussi par les politiques, donc il y a toujours des ponts. Mais je m'intéresse de plus en plus à la sociologie.
On sent votre curiosité quand on vient voir vos spectacles. On sent que vous lisez de la littérature, des philosophes, pas mal maintenant, de la sociologie, que vous êtes, oui, vraiment curieux de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qu'on vit et de ce qui s'est écrit avant nous. Et puis vous êtes curieux maintenant aussi d'opéra. Cet homme est parfait.
Ouais, ouais.
Puisque Timothée Varron croisait dans le train un jour où il apprenait... C'était quoi, le voyage d'hiver ?
Oui.
Et Dieu sait si c'est du travail, le voyage d'hiver.
C'est un petit boulot.
Ce qui m'amuse déjà, c'est que vous soyez resté en contact après le trajet.
Oui, alors il s'avère qu'on habite pas loin géographiquement l'un de l'autre, on habite en Bretagne, d'une même génération étant artiste scénique, se croisant pas loin en Bretagne, c'est quand même sympa aussi de pouvoir...
boire des bières ensemble.
Ouais, des galopins même, parce que lui il est spécialiste de galopins.
On s'ennuie pas en Bretagne.
Mais c'est marrant parce qu'on parle de Paris et du milieu artistique en Bretagne dans un bar
sur un petit port.
Sur un petit port.
Finalement, c'est très bobo en fait. Finalement.
Ouais, c'est clair. C'est hyper.
Vous êtes dans le Finistère ?
Non, dans le Morbihan. Non,
Morbihan.
Non, c'est la Bretagne pour.
Mais voilà, moi je suis.
Ceux qui veulent la découvrir. Non, mais lui, il est né là-bas.
Moi, je suis natif de là-bas et toute ma famille, la moitié de ma famille, ce sont des paysans de là-bas et c'est vrai que.
Du côté de Vannes ?
Ouais, pas très loin. Dans le coin. Mais on est content de voir arriver des Parisiens comme ça.
Ouais.
Enfin, ceux-là, ça va.
C'est quand il y en a plusieurs que ça devient problématique.
Et d'ailleurs, les Bretons appellent tout le monde les Parisiens s'ils ne sont pas Bretons.
Bah, bien sûr.
Mais on les reconnaît quand même. Hein. Moi, maintenant que j'habite en Bretagne, j'identifie les Parisiens.
Ah, ils ont une marinière.
Ouais, ciré jaune, boîte aigle.
Et parfois des pulls Saint-James.
Exactement.
C'est ça. Alors, on a en face de nous, Monsieur Haroun, on a un ancien étudiant en lettres modernes, c'est Timothée Varron, cours de chant au conservatoire de Pontivy, chœur de l'Opéra de Rennes, ensemble vocal millésime, conservatoire de Lyon avec une grande chanteuse comme prof Françoise Pollet, et puis Mireille Delinche, deux grandes interprètes. Vous rejoignez l'Académie de l'Opéra National de Paris en 2028, c'est vraiment une formation en or, et vous êtes venu aujourd'hui, non pas tout seul, mais avec 3-4 musiciens, pour chanter de l'opéra.
Non, pas pour chanter de l'opéra. En fait, ce que je travaille sur un projet de création de spectacle qui interroge les liens entre les musiques créoles et la musique classique.
Parce que quel est votre lien à la créolité ?
Papa vient de La Réunion et j'ai grandi donc en Bretagne dans une famille complètement créole. J'ai des cousins de la Martinique, d'autres de la Guadeloupe et c'est vrai que c'est au cœur de notre culture, de nos conversations, de notre imaginaire.
Maman bretonne donc.
Exactement.
Et je peux balancer un petit dossier, ils mangent des samoussas à Noël.
Il n'y a que les vrais qui font ça.
Et vous essayez de réveiller une culture réunionnaise.
Elle a toujours été éveillée. J'essaie surtout de lui trouver une juste place au milieu de toutes les influences. Je le disais, j'ai commencé par le rap et le reggae, la musique. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a les musiques urbaines, il y a la musique classique, il y a les musiques traditionnelles. Et je suis en train de créer un spectacle qui conjugue toutes ces musiques-là dans une perspective créole parce que je trouve que c'est la meilleure pour réunir autant de mondes différents. Je suis accompagné par des artistes formidables, certains m'accompagnent.
On va dire leur nom, ils sont là en studio avec un
aujourd'hui, venez-nous. Aujourd'hui, il y a Cécile Turby, qui est une pianiste réunionnaise, et Jean-Didier Warraud, qui est chanteur et percussionniste, et Flavien Soyer, qui est une pièce rapportée, lui, il est mandoliniste et guitariste, et en fait, il m'accompagne dans la sérénade de Don Giovanni, dans la production qu'on fait depuis maintenant un an et demi.
Je vais faire comme autrefois Jacques Martin, que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune, je vais dire, et qu'est-ce que tu vas nous chanter ?
Et je vais vous chanter une chanson qui s'appelle « Sous-pied camélia » de Maxime Laop, qui est un grand chanteur de musique réunionnaise. Elle parle d'une guérison après la mort, c'est-à-dire qu'on enterre quelqu'un. La traduction, c'est « Si un jour je meurs, enterre-moi, tu m'enterreras sous un pied de camélia, les fleurs, et les racines me guériront, me soigneront, et les fleurs t'emporteront. » D'un côté comme ça, très romantique.
On va vous écouter. Timothée Varron, « Sous un pied de camélia ».
L'avion y vole, laisse aller voler. 6 heures va sonner, il va trouver son garage pour l'y poser. L'avion y vole, laisse aller voler. 6 heures va sonner, il va trouver son garage pour l'y poser. Si un jour mi mort, on terra moins sous pied camélia. La racine va tisane à moins et le fleur va emporte à toi. Si un jour mi mort, on terra moins sous pied camélia. La racine va tisane à moins et le fleur va emporte à toi. Oiseau bélier y rôde, laisse aller rôder. Maïvan y jaune, l'y va gagner pour l'y béquer. Oiseau bélier y rôde, laisse aller rôder. Maïvan y jaune, l'y va gagner pour l'y béquer. Si un jour mi mort, on terra moins sous pied camélia. La racine va tisane à moins et le fleur va emporter. Si un jour mi mort, on terra moins sous pied camélia. La racine va tisane à moins et le fleur va emporter. Là où c'est Nana Malba, il fait danse coco, grand-mère qu'elle fait tout tout tout. Là-haut cap là-haut c'est Nana Malba. Il fait danse coco, grand-mère qu'elle fait tout, tout, tout. Si un jour mi mort, terre à moins sous pied camélia, la racine baptisane à moins et les fleurs d'emporte toi. Si un jour mi mort, terre à moins sous pied camélia, la racine baptisane à moins et les fleurs d'emporte toi. Si un jour mi mort, terre à moins sous pied camélia, la racine baptisane à moins. Et le fer remporte à toi. Si un jour mi mort en terre à moins sous pied camélia, la racine baptisane à moins. Et le fleur remporte à toi.
Si un jour mi mort en terre à moins sous pied camélia, la racine baptisane à moins. Et le fleur remporte à toi.
Timothée Varron dans le grand atelier de Haroun, qui écoute comme un petit garçon impressionné par, j'allais dire, par la musique vivante.
Moi, je suis très impressionné par ce rythme qui donne envie de danser comme ça doucement et qui, en même temps, la chanson est très mélancolique. Il y a un mélange d'envie de danser et en même temps de mélancolie qui est très joli, que j'adore dans le Maloya.
Timothée Varron.
C'est ce contraste-là qui est aussi raconté dans la chanson et dans les chansons réunionnaises. Ça, c'est J.D. Waro, quand je suis allé chez lui timidement pour lui demander les clés, des recettes, des coulisses. Parce que voilà, lui, il a une grande carrière dans cette musique-là. Il a
le Maloya, hein, il faut dire que c'est le genre musical majeur de La Réunion.
Hein. Oui, exactement. Il a chanté pendant 10 ans avec son tonton qui est Daniel Waro dans le monde entier pour défendre cette musique-là. Et il m'a dit, il faudrait que tu fasses attention... au contraste de l'île, c'est-à-dire les montagnes, d'un côté la hauteur des montagnes et la mer, bien sûr les gens, mais ses reliefs en fait. Et dans cette chanson, les trois couplets parlent de l'avion qui vole et qui cherche son garage pour se poser, de l'oiseau qui cherche à manger, et aussi d'un homme qui danse sur le cap Laoussé, qui est un des grands caps qui est dans la mer, bien sûr. Et ensuite, on a ce rapport à la mort, l'enterrement, et cette fleur qui remonte et qui emporte tout, dans le vent, on peut l'imaginer comme ça. Mais il y a ce contraste aussi, là, juste du paysage.
Moi, j'avais juste une question pour Timothée, si vous me permettez. En fait, le but de créer un opéra créole, c'est de faire entrer la musique créole dans les enceintes de l'opéra.
Ouais, c'est ça, et c'est les deux, c'est-à-dire c'est de faire venir des gens qui sont amateurs de musique créole, parce que la musique créole, il faut savoir qu'elle a influencé une énorme partie de la musique populaire qu'on écoute aujourd'hui. C'est Bertrand Dical, un de vos confrères, qui en parle très bien.
Un spécialiste de musique, oui.
Ouais, spécialiste de musique, tous ces rythmes, que ce soit la bachata, le reggaeton, la bossa. Enfin, quand j'ai passé 3 mois à la Nouvelle-Orléans l'année dernière dans le cadre d'une résidence à la Villa Albertine, et les gens parlent beaucoup du jazz comme d'une musique créole, c'est-à-dire d'une musique née de la fin de l'abolition de l'esclavage, ou même pendant l'esclavage, de ces luttes permanentes entre différentes communautés, entre les héritages européens, africains, et qui se sont réinventés dans la douleur. Et ça a créé des musiques géniales, à mon sens.
Et aujourd'hui, Timothée Varron, vous essayez de faire quel spectacle? De produire, de trouver de l'argent pour monter un spectacle?
Oui, alors on a déjà plusieurs partenaires. Nous, on veut créer un spectacle lyrique, c'est-à-dire une histoire mise en mots et en musique, comme un petit opéra entre l'opéra et le théâtre musical, pour raconter cette histoire. Sur scène, il y aura un quintet à cordes, un piano, des percussions traditionnelles, une voix lyrique et une rappeuse.
Et un narrateur qui sera donc Haroun.
Et un narrateur. Un narrateur, ce sera un rappeur ou une rappeuse, parce que c'est aussi un grand amour que j'ai pour cette musique-là.
Mais ce que je trouve très intéressant dans le fait que l'opéra considère que le rap, c'est pas de la musique, ou que dans le rap, on trouve que l'opéra, c'est un truc de bourgeois, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a une fascination aussi, je pense qu'il y a la fascination de classe, en fait, où on est toujours fasciné par l'autre classe, quoi. Et on voudrait y être sans y être. Et ça pose la question des questions sociologiques aussi, la musique, si on regarde d'où elle vient, comment elle se fait. Tout à l'heure, je discutais avec Jean Didier de sa percussion. La percussion, c'est une peau de bœuf sur un tonneau. Mais moi, je pensais que c'était, il disait un tonneau. Et après, quand je l'ai vu sortir, c'est un vrai tonneau, en fait. Donc ça veut dire que c'est des gens qui se sont emparés d'un objet. Moi, que je vois les tonneaux, on a l'impression de voir un tonneau de Rome, de pirate, et on en a fait quelque chose qui maintenant est sur des scènes avec des gens qui viennent payer leur place et tout pour voir un tonneau avec une peau de bœuf, donc quelque chose de très organique, très fait artisanalement, etc. Et ce que je trouve intéressant dans la création et dans l'art, c'est ça, c'est les ponts que nous on doit faire. C'est notre responsabilité de prendre les gens par la main et de les faire se donner la main un moment et qu'ils se rencontrent dans une salle de spectacle. Si on amène des gens qui écoutent du rap à écouter de l'opéra, ou des gens qui écoutent de l'opéra à écouter du rap, bah, quelque part c'est là que tu gagnes, quoi. Et moi je veux juste ajouter quelque chose, parce que Nous, en stand-up, on écrit des blagues, on prend un micro, on va faire les blagues le soir même dans des comedy clubs. Quand je vois tout le travail que c'est de faire, ne serait-ce que la chanson qu'on vient d'écouter avec les techniciens qui sont venus et qui ont fait des tests, qui ont fait des réglages, il faut amener les instruments, il faut se réunir, il faut se caler. Je suis hyper impressionné par tout le travail que ça demande, la musique, par rapport à nous qui sommes quelque part un peu des feignants par rapport à côté de ça. Quoi.
Je tiens à dire que c'est pas une posture parce que vous me l'avez dit pendant les répétitions.
Ouais, mais moi, je suis...
Ce qu'on appelle la balance.
Non, mais c'est vrai. La... Mais même tout, logistiquement, se réunir, être en groupe, se caler, créer cette chanson. Moi, je suis hyper ému par le fait d'entendre ça.
Vous savez ce qu'on va faire ? On va écouter quelqu'un qui vous aime beaucoup, vous êtes amis d'enfance. Il vous dirige, il vous regarde, il vous dit « ça, c'est pas mal, ça, tu peux le faire mieux, ouais. Bouge un peu ton corps différemment, fais un silence, ça s'appelle un metteur en scène ». Vous connaissez ça, Timothée Baron, ouais. Parce que vous avez deux patrons, vous, un chef d'orchestre et un metteur en scène.
Exactement.
Il faut trouver sa liberté dans tout ça. Il s'appelle comment cet ami
Tierno Tune.
Voilà, et il a connu le hip-hopper que vous étiez.
Le stand-up et le hip-hop sont très proches. L'image du cercle, un danseur va rentrer dans un cercle et tout autour c'est le public. Je vois à peu près la même chose lorsque le comédien rentre sur scène, devant il y a le public, derrière il y a son équipe. On est encore dans cette logique de t'es tout seul et tu vas montrer qui tu es.
Ouais.
Un être humain peut juger sans connaître de la danse, c'est quelque chose qui est drôle ou pas. Il va pas à l'école, on va pas lui dire ça c'est drôle, ça ça l'est pas, là il danse bien, là il danse pas bien. Non, mais techniquement, t'arrives à voir si ça te touche. Et c'est pour le coup là que nos deux cercles se retrouvent entre le stand-up et la danse, c'est que t'arrives à voir tout de suite si le mec il est fort.
Comment t'en es venu au stand-up d'ailleurs, parce que t'es danseur à la base?
C'est vraiment avec Haroun, par la danse et par Haroun. Haroun dansait.
Attends, il dansait bien ou pas?
C'était un breaker. En fait, si tu demandes même à Haroun, Haroun va dire qu'il se trouvait pas bon. Et qu'il est devenu ce qu'il est devenu en stand-up. À cause de sa frustration en danse. Dans la danse, il voulait vraiment faire un truc. Ça n'a pas marché. Et en stand-up, c'est vraiment le mot qu'on sortait tout le temps. Il disait, je veux tout défoncer comme Benji.
Avec un extrait de la BO de La Haine, qui est un film important pour beaucoup de spectateurs, mais notamment pour Haroun.
Oui, oui, tout à fait. La Haine, ça m'a fait voir des danseurs à un moment. Je me suis dit, je vais absolument faire ça. Il fait référence à Benji, parce que c'était un breaker de l'époque qui se posait jamais de questions quand il allait dans les cercles. Il cherchait toujours à donner le maximum de lui-même et en plus, il cherchait toujours l'originalité. La danse, le breakdance, c'est une super école pour ça, parce que c'est à la fois sportif, donc c'est des sportifs de haut niveau, c'est beaucoup de rigueur, c'est de la danse, c'est de la création et surtout une recherche constante d'originalité. Ça a été une super école pour moi et je la conseille à tout le monde.
Donc le Haroun qui grandit en banlieue dans l'Essonne, si je ne m'abuse,
ouais, c'est ça.
Il fait vers 20 ans, donc il y a 20 ans à peu près, du hip-hop.
C'est ça, exactement.
Et vous vous trouvez mauvais?
Oui, oui, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont très très forts. Je suis mes études en même temps et je sens bien que j'ai pas le niveau pour me professionnaliser dans la danse.
Études de commerce, hein.
Oui, exactement. Et puis j'avais toujours ce truc de l'humour qui était là depuis l'enfance que j'avais envie de faire et j'ai découvert aussi l'impro. Donc je me suis aussi orienté sur des choses qui font moins mal au corps aussi. Parce que la danse, c'est une rigueur extrême, quoi.
Aujourd'hui, vous avez envie de continuer le stand-up, c'est votre sixième spectacle. Hein. Mm-hmm. Je rappelle le titre « Bonjour quand même » qui part en tournée après Paris en fin de semaine. Mais vous avez aussi envie d'être comédien, je crois. Vous avez aussi envie de réaliser un film.
Oui, en fait, je m'aperçois que sur scène, il y a une limite dans le monologue et qu'on peut faire passer d'autres choses par le dialogue. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'écriture de scénario. Et en fait, de proche en proche, à la base, le cinéma ne m'intéressait pas tant que ça. Mis à part le fait que j'étais passionné de dialogue. Et quand je regarde des films avec des dialoguistes, souvent des films qui sont un peu vieux parce qu'il y a moins de dialoguistes maintenant, je regarde que ça et j'ai eu envie donc de dialoguer, d'écrire du scénario. Et puis en fait, en écrivant des dialogues, on a envie de les voir jouer, on a envie qu'ils soient bien joués parce qu'on a envie que la blague passe. Et puis on s'intéresse à la réalisation. Et là, l'idée, en effet, j'ai un projet de film qu'on va faire en financement participatif. On veut financer en financement participatif. C'est pas moi qui vais réaliser. C'est un collègue qui s'appelle Seralf qui va réaliser. Et moi, je vais, disons, l'assistant mise en scène pour m'occuper des comédiens, pour voir rythmiquement comment ils vont sortir ça. Mais on s'amuse beaucoup à faire ça. Et en effet, ça me paraît irréel de partir d'un papier et d'en créer un film. Parfois, je me dis, mais comment ça va se faire? Et finalement, on arrive à le faire.
Comme vous aimez sortir des sentiers battus, notamment sur le plan de la production, Haroun, vous lancez à partir de mercredi une campagne de financement participatif sur Ulule.
Ouais, c'est ça, exactement.
Je peux vous donner déjà un peu d'argent,
si vous voulez.
Il vous faut combien, il vous, parce que l'industrie du cinéma, c'est concret.
Oui.
Combien il vous faut?
En gros, je pense qu'un film indépendant d'auteur aujourd'hui, on peut faire quelque chose d'honnête en s'approchant d'un million, en étant en dessous d'un million, mais en s'approchant d'un million. Je ne suis pas sûr que le financement participatif permette d'arriver à ce montant-là, mais après, on peut compléter. Le financement participatif, ce qui va permettre, c'est de gagner en liberté et gagner en liberté à la fois de temps, parce que attendre un financement, c'est parfois très très long dans le cinéma, mais ça permet aussi d'avoir moins d'interlocuteurs qui relisent le scénario, qui disent ça me va pas, cet acteur-là, je le veux bien. Nous, on voudrait faire des choses beaucoup plus librement, en s'inspirant de ce qui a été fait avec la nouvelle vague, les films d'auteur, et en y mettant la comédie. Encore une fois, c'est de faire un pont, comme ce dont on parlait tout à l'heure avec Timothée, c'est de faire un pont entre le cinéma comédie populaire et le cinéma arty, qui va être plus auteur indépendant.
Vous avez déjà pensé à votre distribution ?
On est en cours. Mais moi, je veux faire une comédie sociale qui parle de la France périphérique. Donc là, je suis en train de lire des livres sur la France périphérique, notamment.
Qu'est-ce que vous lisez ?
Là, je suis en train de lire le livre s'appelle La France périphérique. J'ai oublié le nom de l'auteur. Et il parle du déclassement des classes populaires et du fait que les classes populaires ont dû s'éloigner des métropoles et des banlieues, notamment, pour aller vivre dans une France périphérique qui est oubliée aujourd'hui du débat politique. Et j'ai envie d'en faire une comédie pour montrer qu'il y a aussi de la créativité dans ces zones-là, et il y a des envies, il y a une conscience aussi politique dans ces zones-là, et on n'en parle pas assez, quoi.
Pourquoi vous passez pas par le système de production classique, Haroun ?
D'abord, j'ai eu des expériences avec des productions classiques où je m'apercevais que plus ça allait, et au fur et à mesure des lectures et au fur et à mesure des interventions, le scénario perdait de sa nature originelle. J'écrivais des choses qui étaient faites pour rapper un peu, pour accrocher un peu les oreilles parfois, mais justement pour que ça fasse rire, parce que moi c'est ça qui me fait rire. Quand j'entends Un air de famille ou Marche à l'ombre, j'entends l'inesthétique de ce qu'on veut filmer, quoi. Et c'est ça qui m'inspire, et aussi parce que j'ai envie de renouer avec le public et redire au public c'est eux qui font l'œuvre et c'est pas l'inverse. C'est pas à nous de dire au public ce qu'il doit voir, c'est au public d'indiquer aussi ce qu'il aime, et je pense qu'il a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le pense, et on l'a un peu perdu à travers le marketing de l'industrie du cinéma.
Quand vous étiez en famille dans l'Essonne, vous regardiez ensemble Didier, Cuisine et Dépendance.
Cuisine et Dépendance, Didier, Un air de famille, pour moi ce sont des modèles, Le dîner de con. D'ailleurs tout ça ce sont beaucoup d'œuvres qui viennent du théâtre, mais j'ai revu Marche à l'ombre récemment, j'ai revu Viens chez moi, j'habite chez une copine, le génie de l'écriture de Michel Blanc, je suis hyper admiratif. J'ai revu aussi L'Entourloupe où il y avait dialoguiste Audiard. C'est extraordinaire. Je trouve que ça manque dans le paysage cinématographique actuel. Peut-être qu'il n'y a pas assez de budget qui est consacré au dialogue. Non mais franchement, il faudrait payer encore des dialoguistes. Il faudrait qu'il y ait un dialoguiste par film de comédie pour avoir ce niveau-là, quoi.
Vous avez même une passion pour Jean-Pierre Bacri.
Ouais, alors ça c'est... Vous êtes bien renseigné. Moi, le jour du décès de Jean-Pierre Bacri, je me suis dit, en fait, ça ne m'intéresse pas le cinéma. Parce que moi, mon but dans la vie, c'était de travailler avec Jean-Pierre Bacri. C'était mon but dans la vie.
Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. Bon, on ne sent pas le cul des filles. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle.
Quel mépris. 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans.
Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture.
Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision.
Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos.
Ah, l'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage.
Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles là, c'est ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil.
Les smileys ça.
Ouais voilà, les ça là.
Bon, mais on se marre encore en studio aujourd'hui, en cabine technique en face, ouais, aussi. Vos musiciens également. Pourquoi vouliez-vous être Jean-Pierre Bacri, Haroun ?
Non, mais je ne voulais pas être Jean-Pierre Bacri, mais je voulais travailler avec lui. Parce qu'en fait, il représente tout ce que j'apprécie dans la bonne comédie et le bon cinéma. Il bafouille. Et en fait, un acteur qui bafouille, il va dire « je vais la refaire ». Mais on prend la prise où il bafouille. Et je suis pas sûr qu'il conscientisait ce bafouillement avant de le jouer. Mais
vous aussi, vous bafouillez sur scène.
Oui, oui, un petit peu, c'est vrai. Et en fait, avec le réal avec qui je travaille, parfois, on fait des prises et on s'aperçoit que c'est pas parfait. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est trouver l'esthétique dans la vie réelle, en fait. Ce qu'on trouve moche dans la vie, le rendre beau au cinéma, mais pas en le dénaturant, en le prenant comme il est. Et il y a ce naturel chez Jean-Pierre Bacri qui est très inspirant.
C'est intéressant parce que Timothée Varron, baryton, chanteur d'opéra qui travaille beaucoup, vous n'avez pas le droit, vous, de bafouiller. Vous êtes à un niveau qui oblige à une forme d'excellence, qui ne veut pas dire que Varron n'est pas excellent ou Jean-Pierre Bacri, hein, mais oser ressembler à la vie comme Varron et Bacri, c'est pas possible à l'opéra.
Si, c'est possible. C'est possible.
Comment ?
Dans l'authenticité du sentiment qu'on met quand on chante. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des metteurs en scène qui s'appellent Patrice Courrier, Moshe Leiser, par exemple, qui sont des grands amis, et qui, eux, travaillent les récitatifs chez Mozart comme quelque chose d'organique, comme quelque chose de vivant. Je me souviens, quand je suis arrivé à l'audition, c'était avec eux que j'ai commencé à travailler le rôle de Don Giovanni, il y a 10 ans, peut-être maintenant. Et je suis arrivé, je chantais comme ça, j'avais mis une belle veste. Et voilà, moi je suis un Don Juan, quoi. Et il m'avait dit, on s'en fout de ta belle voix. En fait, il faut que tu existes, quoi, que tu joues la situation juste comme elle est. Et dans les répétitions, quelque part, je chantais de moins en moins bien, c'est-à-dire que ma voix était de moins en moins bien placée, mais peut-être que ce qui se passait était de plus en plus authentique, juste et vrai.
Donc c'est dans l'incarnation qu'il faut.
C'est dans l'incarnation, et je crois que l'opéra a aussi un peu changé pour ça, parce que quand on écoutait certains chanteurs du passé, ils sont pas à la recherche de la beauté absolue du son. Je crois qu'ils sont dans une autre quête, dans la quête du sentiment vrai. Alors bien sûr que c'est une technique, bien sûr que c'est de la musique, bien sûr que ça doit être beau, mais ça doit être vrai surtout.
On reprochait à l'époque, dans les années 50-60, à Maria Callas de pas toujours être juste.
Exactement.
Mais d'être juste sur scène.
Bien sûr.
Elle était juste sur scène. Vous voulez dire quelque chose, Arun ?
Non, en fait, parce que c'est très intéressant, parce que je pense que dans la maîtrise de l'art, en fait, il faut une étape de maîtrise absolue pour ensuite savoir dégrader sa maîtrise pour rendre l'œuvre encore plus touchée par l'émotion.
C'est presque le lâcher prise.
Exactement. Et à vrai dire, c'est ce que je ressens actuellement avec ce spectacle sur scène. Je lâche beaucoup plus prise. Je m'autorise des digressions parfois qui sont juste du soir et je trouve pas forcément la blague, etc. Mais je suis tellement à l'aise avec ce truc et avec ce que je me suis prouvé à moi-même par le passé que au final, ça crée quelque chose de plus organique.
Je vous propose d'écouter Meryl. Elle est née en Martinique. Elle est autrice, compositrice, interprète, rappeuse, productrice. Elle chante en français et en créole martiniquais. Et ensuite, on écoute, messieurs, vos conseils culturels pour la semaine.
Chop, elle fait chop business à tout moment où on balassait. Chop à go, tout, c'est mauvais temps. Nous, hop, donc, yo, les piges, si la détente. C'est la nuit, plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça, ni en tête. Mais j'en connais, donc, à fait papa. C'est nègre, là, pas aimé ça. 450YFZ. T'en connais ici à CNF7. Faut manger si yo jour on y les contacts. Faut pas yo fait être préchappé. Maman me touche comme si je suis plus là. Elle me sort dans ses bras, elle est au plus bas. Avant il m'en faut envie fait Kaila. Pour moi combien fois yo lui met la étale. La ria pas qu'à jouer moi des zaza. Mais des jet qui baillent pour tout le monde baille là. Sauf la nation où ça veut nous ni ça là. Je vais être quelque cartel est à Gaza. Comme c'est phony chante la 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 la. Mon fouette pouti la en gla 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 gla. Pas moi en winner ou en dompé. Diamant de la saison et gay et donne me. Chop à l'effet chop business. À tout moment où on palassait. Chop à go tout c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges si la détente. C'est les nids plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Mais j'en connais donc qu'a fait papa. Ces nègres là pas aimé ça. Chop à l'effet chop business. Di-di-di-di. Chop à l'effet chop business. Di-di-di-di-di. Chop à l'effet chop business. Di-di-di-di. Chop à l'effet chop business. Di-di-di-di. Chop à l'effet chop business. À tout moment où on palaisait. Chop à go tout c'est mon fait temps. Chop à go tout c'est mon fait temps.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Allez, je le disais, c'est le moment des conseils de Haroun et Timothée Varro. Vous avez envie de parler d'un chanteur, Haroun ?
Oui, de Susano, que j'ai découvert assez récemment sur les conseils du réalisateur avec qui je travaille. Il m'a bouleversé, il a fait des super covers de Aznavour, Gainsbourg aussi, et j'adore sa voix, j'adore sa musique. Je vous conseille vraiment, il y a quelque chose de très actuel et de très... aussi mélancolique qui m'a bouleversé.
À la fois chanteur et rappeur ou
oui,
pas ?
Oui, il rappe un petit peu dans certaines chansons, mais je me pose pas la question en fait. Quand j'écoute sa musique, je me dis pas, je sais pas si c'est de la musique urbaine ou de la variété ou je sais pas, je me laisse porter par le truc et je lui fais totalement confiance.
Vous êtes heureux quand il chante Briller ?
Oui, Briller, ça me parle beaucoup parce qu'il parle de la vie mondaine et de ce qu'on lâche de notre vie personnelle pour accéder à la vie mondaine et ce qu'on peut regretter quand on est dans la vie mondaine par rapport à notre vie personnelle.
Oh, ça pourrait être du Haroun sur scène.
Oui, oui, tout à fait.
J'ai vendu album à l'appel, ce soir encore la salle est pleine. J'ai vu que ça sonnait, mais je rappellerai plus tard quand la fête sera plus calme. J'ai fui la nuit, moi je voulais briller. Briller, oh briller. Trop près du soleil, fini brûlé. Brûlé, oh brûlé.
Voilà, Susano, c'est ce qu'écoute Haroun quand il va plonger en Bretagne, dans le Morbihan, quand il est dans sa 4L.
Presque. C'est presque ça.
C'est presque ça. Ouais, ouais. Plutôt deux chevaux au bout.
Non, c'est une Dacia Docker.
Ah oui. Ouais. Donc il pourrait écouter Susano dans sa voiture et Timothée qui conduit lui aussi, il a le permis depuis peu. Voilà ce qu'il, voilà ce qu'il écoute.
A man with money walks into the store. The boss will shake his hand at the door. Compton lads to take down anything. Whiskey, cloth, earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike.
Elle est américaine d'origine haïtienne, elle s'appelle
Leila McCallin.
Pourquoi faut-il l'écouter ?
Il faut l'écouter parce que ce dont on parlait, l'authenticité, cette hauteur et cette maîtrise absolue de son art, je crois qu'elle l'incarne très bien. J'ai passé 3 mois à la Nouvelle-Orléans et j'ai vu des concerts tous les soirs, parfois 2 ou 3. Je crois que c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu. C'était elle qui jouait avec l'orchestre philharmonique de la Nouvelle-Orléans. Elle est aussi violoncelliste. Et elle est sans concession, c'est-à-dire qu'elle est arrivée d'une simplicité avec son violoncelle un peu cabossé, avec un son qui n'était pas du tout celui des violoncellistes classiques. Voilà, c'est magnifique.
Leila McCallin, elle est en concert en France le 27 février à Senon et le 1er mars à Aix-en-Provence. On va se quitter avec un autre inspirateur de Haroun qui s'appelait Coluche.
J'aurais bien travaillé dans l'administration, hein. Mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. Ben, c'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Moi, je ne pouvais pas y travailler parce que je pars en dormant. Alors la nuit, c'est pas grave, mais au bureau, c'est chiant. Alors j'arrive, mon vieux pop-ball, il nous donne du travail comme 4. Heureusement, on était 8. Et tout de suite, je me suis fait un copain dans l'administration, il m'a dit, mon vieux, si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin. Sans ça, tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. Parce que vous savez, les administrations, c'est des endroits où, quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance. Alors l'autre jour, une copine, je la vois qui part en avance, le patron lui dit, dites donc, vous partez en avance et vous êtes arrivé en retard aujourd'hui déjà. Ah ben, dis justement, hein, je ne veux pas être en retard 2 fois dans la même journée. Hein.
J'avais pas entendu ce sketch depuis des années.
C'est tellement fort.
Là aussi, on a beaucoup ri tous les trois là.
Ouais, c'est très très efficace.
Je suis sûr que les auditeurs aussi dans leur voiture.
En fait, ça se voit que c'est inspiré des brèves de comptoir. Ça se voit qu'il a traîné dans les PMU pour entendre des choses comme ça parce que ça sent vraiment. C'est exactement ça que j'appelle l'intelligence populaire. Ça sent vraiment la vivacité d'esprit qu'on peut retrouver dans des bars PMU et d'une France déclassée.
Mais je pense que ça fait rire aussi les fonctionnaires.
Ah, mais ça fait rire tout le monde.
C'est ça qui est formidable.
Parce qu'on vient tous de là, en définitive.
Merci d'être venu.
Avec grand plaisir, c'est
Haroun,
super.
Dans le grand atelier, vous êtes sur scène, en tournée avec ce nouveau spectacle. Bonjour quand même, comment vous le dites ?
Bonjour quand même. C'est bon, à chaque fois différemment.
J'aime bien. Et Timothée Baron, vous êtes partout, vous chantez tout le répertoire. Qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre que la reprise de Don Giovanni ?
Ben là, je fais un spectacle pour le jeune public au Théâtre des Champs-Élysées. Roméo et Juliette, ça commence à jouer à la fin du mois de janvier, début février. Et puis pour ceux qui aiment prendre encore l'avion, il y en a peu, je vais faire mes débuts dans Escamillo, dans Carmen. À Hong Kong.
Wow.
Timothée Baron, mesdames, messieurs, un ami de la SNCF, ils disent merci à la SNCF. Un ami de Haroun. À bientôt. David Leprince a réalisé cette émission préparée avec Marion Guilbeault et Anaïs Boucher, à la programmation musicale Valentine Chédebois, à la technique aujourd'hui Laurent Baudouin avec Julien Dumont. Samedi, ce sera la balade de David Walters et dimanche, le grand atelier de la romancière Delphine de Vigan.